En ce temps-là, j'ai supplié le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as commencé à me montrer à moi, ton serviteur, ta grandeur et ta main forte. Quel Dieu au ciel et sur la terre peut imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je t'en prie, pour que je voie ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais le Seigneur s'était irrité contre moi, à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. Le Seigneur m'a dit, « Cela suffit, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, lève les yeux vers l'ouest, vers le nord, vers le sud et vers l'est, et regarde de tes yeux, mais tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, rends-le fort et courageux. C'est lui qui passera devant ce peuple et qui lui donnera comme patrimoine le pays que tu verras. » Moïse ne passera pas le Jourdain avec le peuple. Il n'entrera pas dans le pays promis. Ce n'est pas lui qui conduira le peuple à la conquête de Canaan. Pourtant, Moïse a supplié le Seigneur, certainement à plusieurs reprises, jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, ici au verset 26, « Ça suffit, ne me parle plus de cette affaire. » Mais que s'est-il donc passé pour que Dieu interdise à Moïse d'entrer dans le pays de Canaan? Qu'a fait Moïse pour mériter cela? Après toutes ces années de bons et loyaux services, n'est-ce pas sévère de la part de Dieu? N'est-ce pas injuste? C'est en tout cas surprenant. La réponse à ces questions se trouve dans le texte que nous allons considérer ce matin dans notre série sur Moïse. Un texte qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 20, et nous allons lire les versets 1 à 13. Nombres 20, 1 à 13. Les Israélites, toute la communauté, arrivèrent dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'installa à Kadesh. C'est là que Myriam mourut et fut ensevelie. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Si seulement nous avions péri quand nos frères ont péri devant le Seigneur. Pourquoi avez-vous amené l'assemblée du Seigneur dans ce désert si nous devons y mourir, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte si c'était pour nous amener dans ce lieu hostile? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils tombèrent face contre terre et la gloire du Seigneur leur apparut. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends le bâton et rassemble la communauté, toi et Aaron, ton frère. Vous parlerez au rocher sous leurs yeux et il donnera son eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu feras boire la communauté et son bétail. » Moïse prit le bâton qui était devant le Seigneur, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron réunirent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, « Écoutez, je vous prie, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau pour vous ?» Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec son bâton. Il en sortit de l'eau en abondance. La communauté but et son bétail aussi. Alors le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont là les eaux de Meriba, qui signifie querelle, où les Israélites cherchèrent querelle au Seigneur, qui montra sa sainteté parmi eux. Notre récit commence en précisant que le peuple arrive dans le désert de Tsin et qu'il s'installe à Kadesh. Tout cela le premier mois, dit le texte, sans préciser de quelle année. Cependant, la comparaison de quelques versets de ce même chapitre, les versets 22 à 29, avec le verset 28 du chapitre 32, nous amène à conclure qu'il s'agit de la 40e année après l'Exode, après la sortie de l'Égypte. Cela veut dire que ce matin, nous faisons un bond en avant de 38 ans, puisque la dernière fois, nous étions au même endroit à Kadesh, mais seulement 2 ans après la sortie de l'Égypte, quand le peuple a refusé d'entrer dans le pays. Et depuis cette première fois à Kadesh, la plupart des Israélites âgés de plus de 20 ans, lors de cette révolte, sont à présent morts. La boucle est presque bouclée, puisque ce peuple se retrouve une nouvelle fois aux portes de Canaan. Nous sommes donc à la fin de la période des 40 années d'errance dans le désert, une année pour un jour d'exploration, ces 40 années d'errance auxquelles Dieu avait condamné le peuple après qu'il ait refusé d'entrer dans le pays. C'est là, nous dit le texte, à Kadesh, que Myriam, la sœur de Moïse, va mourir et va être enterrée. Et puis c'est là, à Kadesh, que le peuple va une nouvelle fois souffrir de la soif. Souffrir de la soif et murmurer contre Dieu. Murmurer contre Moïse et Aaron, ce qui revient à murmurer contre Dieu dans ce contexte. Je relis les versets 2 à 5. Il n'y avait pas d'eau pour la communauté. Ils se rassemblèrent contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent si seulement, si seulement, si seulement. Devant ce énième murmure du peuple, Moïse et Aaron vont agir de la bonne manière, laquelle ils se rendent à la tente de la rencontre, nous dit le texte. Ils vont à la rencontre de Dieu. Ils vont chercher auprès de Dieu les instructions pour bien agir, pour agir selon lui devant cette nouvelle situation de crise. Et là, dans la présence de Dieu, Moïse et Aaron tombent face contre terre. Ils se prosternent devant Dieu. C'est une marque d'humilité, c'est une marque d'adoration, et c'est certainement aussi, à ce moment-là, quelque chose de l'ordre du désespoir. Combien de fois le peuple leur a-t-il cherché querelle ? Bien trop souvent. En réalité, à la lecture du texte biblique, nous avons le sentiment que ce fut le cas à chaque fois qu'il y avait une nouvelle difficulté. Et nous avons toutes les raisons de penser que cela s'est passé ainsi pendant les 40 années dans le désert. Ça en fait des murmures contre Moïse et contre Aaron et contre Dieu. Et il devait y avoir chez Moïse et chez Aaron une véritable lassitude devant ce scénario qui se répétait comme une rengaine devant chaque difficulté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la patience de Moïse a été et était soumise à rude épreuve. Et l'apôtre Paul, d'ailleurs, quand il évoque cette période de l'histoire du peuple d'Israël, dans son discours à Antioche de Pisidie, dans Actes 13, verset 18, nous lisons « Il les a supportés pendant environ 40 ans dans le désert ». C'est bien ce que Moïse a fait. Il les a supportés pendant les 40 ans. Il a dû en falloir de la patience. à Moïse et à Aaron aussi. Et alors que Moïse et Aaron sont prosternés devant Dieu à l'entrée de la tente, nous lisons que la gloire du Seigneur leur apparaît. Quel réconfort certainement cela a dû être pour eux, cette manifestation de la gloire de Dieu, cette manifestation de la présence de Dieu qui soulignait que Dieu était avec eux, que Dieu leur était favorable et que même si le peuple les malmenait, Dieu ne les abandonnait pas. Et là, du milieu de sa gloire, Dieu parle à Moïse et il lui dit trois choses. Premièrement, prends le bâton, le fameux bâton. Il y avait un jeu de mots facile ici. Le fameux bâton de berger. Non, le fameux bâton dont Dieu s'est souvent servi pour accomplir des prodiges par Moïse. Le fameux bâton, souvenez-vous, dont Moïse s'était servi parce que Dieu l'avait lui avait dit d'agir ainsi pour frapper le rocher à Horeb d'où était sorti de l'eau. Deuxièmement, Dieu leur dit de rassembler le peuple. Et puis troisièmement, Dieu leur dit de parler au rocher afin qu'il donne de l'eau. Les instructions sont précises, le chemin à suivre est bien balisé. Il n'y a plus qu'à respecter scrupuleusement ce que Dieu a dit pour que le miracle s'accomplisse. Moïse n'en est pas à son coup d'essai. Il a souvent expérimenté, vu Dieu à l'œuvre, Dieu accomplir ce qu'il avait dû dire en accomplissant toutes sortes de prodiges. Que font Moïse et Aaron ? Ils commencent par faire ce que Dieu a dit. Moïse prend le bâton et il rassemble le peuple. Jusqu'ici, tout va bien. Mais ensuite, au lieu de parler au rocher, comme Dieu l'a dit, Moïse se contente de parler au peuple. Et ce qu'il dit au peuple, à ce moment-là, ne reflète absolument pas de la confiance en Dieu, certainement pas de la patience envers son peuple, mais de l'exaspération et de la colère. Moïse traite le peuple de rebelles. Écoutez, je vous prie, rebelles, dit-il. Et on entend dans cette interprétation du peuple toute la frustration de Moïse. Moïse qui est peut-être à bout, qui peut-être n'en peut plus de ce peuple. Moïse, en tout cas, qui semble ici donner libre cours à son exaspération, à sa frustration et à sa colère. Et il fait tout cela en désobéissant à Dieu. Au lieu d'obéir à Dieu et d'agir comme Dieu l'a dit, c'est-à-dire d'agir de manière à ce qu'il soit évident que c'est Dieu qui accomplit le miracle, Moïse tire la couverture à lui. Et sa question rhétorique du verset 10 est, à mon sens, pleine de sous-entendus. Est-ce de ce rocher, dit-il au peuple, que nous ferons sortir de l'eau pour vous ? Est-ce de ce rocher que nous, Moïse et Aaron, nous ferons sortir de l'eau pour vous ? Ah bon, Moïse ? Depuis quand c'est toi qui fais sortir de l'eau de quelque part ? Depuis quand c'est toi qui accomplis des miracles ? Depuis quand prends-tu la place de Dieu ? La question de Moïse, le moins que l'on puisse dire, est qu'elle est ambiguë. Elle est ambiguë et elle manifeste tout sauf l'obéissance paisible en Dieu qui a si souvent caractérisé Moïse. Elle manifeste plutôt ici une certaine arrogance, une certaine suffisance et même de l'incrédulité de la part de Moïse. Et alors que Moïse devait se contenter de parler au rocher, certainement en disant explicitement que Dieu accomplissait ce miracle au travers de lui, Moïse frappe le rocher sans rien dire. pas une fois, mais deux fois. Et ce qui est incroyable dans cette affaire, c'est que le miracle aura néanmoins lieu. Malgré la désobéissance de Moïse, de l'eau sort, et elle sort en abondance, dit le texte. Et ainsi, le peuple et le bétail peuvent se désaltérer. L'histoire ne s'arrête pas là. Dieu va ensuite parler à Moïse et Aaron. Il leur parle pour les réprimander, leur faire des reproches, et pour leur indiquer qu'il y aura une conséquence à ce qui vient de se passer. Ils n'entreront pas dans le pays de Canaan. Parce qu'ils ont mal agi, ils n'entreront pas dans le pays de Canaan. Alors le Seigneur dit à Moïse, verset 12, et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté sous les yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Que leur reproche Dieu pour les punir ainsi? Il ne leur reproche pas leur frustration. Il ne leur reproche pas leur exaspération. Il ne leur reproche même pas d'avoir été en colère. Dieu leur reproche leur incrédulité. Ils ont manqué de foi, dit Dieu. Ils ont manqué de foi, ils ont désobéi, et la conséquence de cette incrédulité, la conséquence première visible pour le peuple, c'est que la sainteté de Dieu n'a pas été révélée au peuple. Dieu n'a pas été reconnu, révélé, élevé comme il aurait dû l'être. Ce miracle devait rendre gloire à Dieu. Il devait manifester la grandeur de Dieu. Il devait manifester sa sainteté. Il devait dire à tout le peuple qui est Dieu. Ce miracle devait élever Dieu aux yeux du peuple. Mais au lieu de cela, Moïse et Aaron se sont d'une certaine manière attribué la gloire qui revenait à Dieu. Cette génération-là qui était assemblée, qui n'est pas morte au désert, qui n'a pas connu les premiers miracles extraordinaires de la sortie d'Égypte, qui, si elle était née à l'époque, c'était des tout-petits. Cette génération-là, elle avait là une occasion préparée par Dieu pour être instruite, pour mieux connaître Dieu, pour voir la puissance de Dieu et voir sa sainteté. Mais qu'ont-ils vu à la place ? La colère et la frustration de Moïse, son arrogance, son appropriation du mérite du miracle. À mon sens, Moïse et Aaron ont clairement raté le coche ce jour-là. Dans leur colère et leur exaspération, ils sont passés à côté de cette belle œuvre que Dieu avait préparée pour eux. Et Dieu leur annonce qu'ils n'entreront pas dans le pays promis. Leur désobéissance aura cette tragique conséquence pour eux. Peut-être pensez-vous, comme il m'est souvent arrivé de le faire, que la sanction est démesurée, sévère, trop sévère. Comment cela est-il possible, après toutes ces années de service ? Nous avons déjà en partie répondu à ces questions en soulignant la raison donnée par Dieu, qui est l'incrédulité, en soulignant aussi la vraie nature de ce que Moïse et Aaron ont fait ce jour-là, en essayant de considérer ce qu'ils ont fait à sa juste mesure devant Dieu. Et nous allons compléter ces éléments dans les prolongements que j'aimerais vous proposer maintenant. Et je tire le premier prolongement, l'incrédulité conduit inévitablement à la désobéissance, comme le second d'ailleurs du livre que Charles Swindoll a écrit sur Moïse, et je me suis inspiré de ce qu'il écrit à ce moment-là. Ce n'est pas anodin dans notre texte que Dieu ait mis le doigt sur le manque de foi. comme la raison de cette punition. Verset 12, nous l'avons lu, le Seigneur dit à Aaron et à Moïse, Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas eu assez de foi. Pas eu assez de foi en moi pour montrer ma sainteté. Pour montrer ma sainteté. La foi, c'est croire, c'est faire confiance à ce que Dieu dit. Quand nous croyons ce que Dieu dit, alors nous cherchons à lui obéir. Et quand nous lui obéissons, nous affirmons par notre obéissance que les voies de Dieu sont les meilleures pour nous. Par contre, quand nous désobéissons, quand nous connaissons la volonté de Dieu et que nous nous en écartons, nous affirmons que nos voies sont meilleures que celles de Dieu. Nous nous substituons alors à Dieu et à sa volonté pour nous. Nous remplaçons la volonté de Dieu pour nous qui est bonne et parfaite par notre volonté. Nous renouvelons ainsi ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu en écoutant le diable et en cessant de faire confiance à Dieu et en cessant de tenir compte de ce que Dieu avait dit, en cessant de croire Dieu. Et ce qui se passe ici dans notre texte, c'est bien cela, c'est de l'incrédulité qui amène à la désobéissance et à se substituer à Dieu. C'est ça, c'est toujours ça l'essence du péché de toute façon. Que faire quand nous sommes confrontés à notre propre incrédulité? Premièrement, nous repentir, bien évidemment, quand cela est le cas. Ensuite, nous pouvons demander à Dieu la foi si nous ne l'avons pas. Il y a peut-être des personnes parmi nous qui se considèrent en dehors du cercle de la foi. Le commencement, c'est de demander à Dieu la foi, puisqu'elle est un don de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Et si nous l'avons, et c'est la très grande majorité de nous qui sommes rassemblés ici ce matin, si nous l'avons, si nous sommes déjà enfants de Dieu, comme Moïse et Aaron dans notre texte, nous pouvons peut-être commencer par lui demander de la fortifier. Nous pouvons peut-être demander à Dieu de nous donner la volonté de lui obéir, là où c'est difficile, puisqu'il donne le vouloir et le faire. Nous pouvons lui demander de nous donner l'humilité, de nous soumettre à ses voies. C'est difficile pour nous qui sommes orgueilleux par nature, puisque l'essence du péché, c'est de prendre la place de Dieu. C'est difficile de fléchir le genou. En tout cas, c'est difficile pour notre vieil homme, pour notre vieille nature. Nous pouvons lui demander aussi le courage de toujours obéir et de le faire surtout quand l'obéissance à Dieu nous attire peut-être le mépris de nos collègues, le jugement des autres ou que sais-je. Comme le priait le psalmiste, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Un esprit bien disposé pour toujours obéir et faire la volonté de Dieu. Le deuxième prolongement s'énonce ainsi, un acte public de désobéissance porte atteinte à la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas ici de minimiser le péché qui n'est pas fait en public, qui est fait en secret, qui est fait dans la sphère privée, mais de souligner que l'honneur de Dieu est particulièrement engagé quand le péché est commis en public. En agissant comme ils l'ont fait, Moïse et Aaron ont porté atteinte à la gloire de Dieu. Sa sainteté n'a pas été révélée au peuple. Pire, Moïse et Aaron ont tiré la couverture à eux et c'est finalement leur gloire qui a été mise en avant devant le peuple. Mais comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 42, et il le redit quelques chapitres plus loin, Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Je suis le Seigneur, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Combien nous devons veiller à ne pas voler la gloire à Dieu. Surtout quand nous sommes en position publique, quand nous sommes en position de témoignage, d'enseignement. Et c'est sans doute dans cette logique-là que l'apôtre Jacques écrit dans son épître que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Plus sévèrement, entre autres parce que c'est la gloire de Dieu qui est en jeu. Entre autres. Entre autres. Le troisième prolongement concerne la grâce de Dieu. Heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu continue à prendre soin de son peuple, même quand certains faillissent. Ici, nous notons que malgré la défaillance de Moïse et d'Aaron, le peuple et le bétail ont quand même pu boire, et même en abondance. Et cela, c'est clairement une manifestation de la grâce de Dieu. Et nous pouvons noter que si ce n'était pas ainsi, s'il n'y avait pas un minimum de grâce de Dieu pour les hommes, pour tous les hommes, je ne parle pas ici de la grâce salvatrice, je parle ici de ce qu'on appelle la grâce commune, celle qui est pour tous les hommes, si ce n'était pas le cas, alors notre monde serait totalement invivable. Totalement invivable. Et c'est parce que Dieu maintient cette grâce commune pour tous les hommes, sur tous les hommes, que malgré le péché, notre monde ne sombre pas dans le chaos total. On s'en approche parfois, mais on ne va jamais jusqu'au chaos total. Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il maintient par sa grâce la vie de notre monde déchu, et il le fait pourquoi ? Parce qu'il veut, il désire que tous les hommes soient sauvés. Et même si cela se joue à un autre niveau et dans d'autres proportions, je crois que ce que je viens de dire pour le monde est vrai aussi pour l'Église. Parce que l'Église, finalement, c'est quoi ? C'est le rassemblement de pécheurs, graciés certes, mais de pécheurs aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne sommes plus pécheurs. Et dans l'Église aussi, nous sommes au bénéfice de cette grâce commune de Dieu qui supplée parfois à nos défaillances. Et puis bien sûr, et c'est le plus important, nous sommes au bénéfice de la grâce particulière, de la grâce en Jésus-Christ, avec tous ses effets bénéfiques pour nous et pour la communion fraternelle. Ceci dit, c'est notre quatrième prolongement, nous devons veiller cependant à ne pas abuser de la grâce. La grâce de Dieu ne nous dispense jamais de l'obéissance. Ce n'est pas parce que Dieu fait souvent grâce que tout devient possible. La grâce de Dieu ne nous dispense jamais de l'obéissance. Et ainsi, le récit de ce matin nous rappelle qu'on ne peut pas prendre Dieu à la légère. Qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut avec Dieu, en particulier désobéir consciemment en comptant ensuite sur la grâce de Dieu pour rattraper le coup. Bien sûr, Dieu pardonne à celui qui se repent. Mais l'obéissance à Dieu, ce n'est pas un jeu. Et nous devons toujours tout mettre en œuvre pour rester dans cette obéissance, faire tout notre possible pour cela. Et s'il nous arrive de chuter, et quand il nous arrive de chuter, parce que cela nous arrive, alors la grâce de Dieu nous invite à confesser notre péché, parce qu'il est fidèle et juste, et il nous pardonne nos péchés, et nous purifie de nos iniquités. Et puis ce que j'aimerais souligner ici, ça rejoint un peu ce que Paul disait dans l'introduction, c'est que nous constatons dans notre texte qu'il n'y a pas de passe droit dans le royaume de Dieu. Si cela était le cas, alors s'il y avait quelqu'un de bien placé pour peut-être passer entre les gouttes, c'était bien Moïse. C'est pas parce que j'ai de la bouteille ou de la route avec le Seigneur que je peux me permettre certaines choses. Ce n'est pas parce que je sers le Seigneur depuis 10, 20, 30, 40 et plus années qu'il va fermer les yeux sur ma désobéissance. Ce n'est pas parce que je suis sauvé sous la grâce de Dieu qu'il n'attend pas de moi la sainteté et l'obéissance. Il faut toujours être vigilant pour rester dans cette obéissance. Et puis, il nous faut toujours être vigilant pour en même temps ne pas nous remettre sous la loi. Parce que vous le sentez bien, on est là sur une espèce de ligne de crête. Pour rester dans l'obéissance, on se remet vite sous la loi, sous toutes sortes de choses que nous cochons pour être sûr que nous avons fait notre devoir. Quoi qu'il en soit, nous devons nous souvenir que la grâce de Dieu est toujours pleinement suffisante pour nous sauver et puis pour nous faire vivre dans ce salut que Dieu nous donne. Et je termine avec un cinquième et dernier prolongement qui concerne la colère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est un point que je tire de ce verset de Jacques qui apparaît les versets 19 et 20 du chapitre 1er, « Sachez-le, mes frères, bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » C'est parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu que nous sommes invités ici à être lents à la colère. Moïse était un homme patient. Un homme patient qui a connu des moments dans sa vie où il n'a pas su contenir sa colère. Et le premier moment, nous l'avons tous en tête, c'est quand il tue l'Égyptien, au tout début du récit de l'Exode. Un autre moment, ce n'est pas exhaustif ce que je rapporte ici, mais un autre moment se situe entre la 9e et la 10e plaie. Dieu avait dit à Moïse clairement qu'il allait encore endurcir le cœur de Pharaon, et pourtant quand Pharaon refuse de laisser partir les Hébreux, nous lisons, il sortit de chez le Pharaon dans une ardente colère. Mais Dieu lui avait dit qu'il endurcirait le cœur de Pharaon. Il y a ensuite l'épisode du veau d'or. Vous vous souvenez, Moïse qui redescend de la montagne et qui voit ce spectacle affligeant de l'idolâtrie du peuple, et dans sa colère, il brise les tables de la loi. Et puis, il y a le récit de ce matin, où, à mon sens, Moïse dérape complètement, et ce qu'il fait, il le fait, je pense, en grande partie sous la colère. Et le problème de la colère, à mon sens, ça n'engage que moi, et je ne parle pas ici des saintes colères, c'est encore autre chose, je ne parle pas ici de la colère de Dieu, c'est autre chose aussi, le problème de la colère pour nous, c'est sa manifestation, c'est la manière dont nous lui permettons de s'exprimer au travers de nous, parce que très souvent, il y a une bonne base à notre colère, une bonne indignation, il y a souvent une injustice ou quelque chose qui suscite la colère en nous. Mais très vite, si nous ne contenons pas cette colère, nous pouvons déraper, nous pouvons mal agir. Et c'est la raison pour laquelle, ce verset est extrêmement important, c'est la raison pour laquelle nous trouvons cette exhortation dans l'épître aux Éphésiens, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas !» Se mettre en colère, c'est une chose. Ce que nous faisons avec notre colère, c'en est une autre. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et à mon sens, tout l'enjeu pour nous se situe là. Il est parfois légitime de ressentir de la colère, mais cette colère ne me donne jamais l'autorisation de pécher. Cette colère ne me donne jamais l'autorisation de désobéir à Dieu. Et Moïse s'est parfois laissé emporter par la colère, comme nous tous d'ailleurs. Et je pense aussi que nous avons tous expérimenté ce que dit Jacques dans le verset que j'ai affiché auparavant, que dans notre colère, nous n'accomplissons pas la justice de Dieu. C'est-à-dire que dans notre colère, nous ne faisons pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons toujours porter une attention toute particulière et demander à Dieu de nous aider à être lents à la colère. Lents à la colère. Et s'il nous arrive de nous mettre en colère, de ne pas pécher. Et nous pouvons vraiment faire de ce point-là un point où nous demandons, si nous bataillons avec cela dans notre vie, demander au Seigneur de nous aider à être lents à la colère et à ne pas pécher dans la colère. Je vous invite à prendre quelques instants de silence devant le Seigneur.